Chapitre 25e. Dosia dormit tout d'une traite. Madame Zaptine eut le cauchemar et Platon ne dormit pas du tout. Le soleil de juin, qui se lève de bonne heure, le trouva assis sur son lit, les yeux ouverts, brisé par une nuit d'insomnie. Ce qu'il avait pensé, souffert, résolu cette nuit-là, eût suffi pour remplir la vie d'un de ces hommes paisibles qui vont du berceau à la tombe, sans avoir connu d'autres soucis qu'une heure de retard ou la corvée d'un travail supplémentaire. Là, de son immobilité, il s'habilla et descendit doucement au jardin. 4 heures sonnaient comme il passait devant le coucou de la salle à manger. Il enjamba 2 ou 3 domestiques assoupis sur des nattes dans les corridors, suivant la coutume russe immémoriale, ouvrit la porte, fermée patriarcalement d'un simple loquet, et se trouva sur le perron. Sous ses pieds, l'escalier casse-cou descendait vers la pelouse. Il s'y aventura, le descendit sans encombre et se mit à parcourir le gazon à grands pas. Tout était humide de rosée. Le soleil envoyait des lames d'or à travers les rameaux et dessinait sur le sable des allées les masses capricieuses du feuillage. L'orchestre entier des oiseaux chantait l'aubade à plein gosier. Le bétail, déjà réuni dans les pâturages, donnait de la voix dans le lointain comme une basse continue. Parfois, une vache laitière, retenue à l'écurie pour les besoins de la journée, répondait à cet appel par un mugissement sourd. Une abeille, éveillée de bon matin, frôla la joue de Platon et s'enfonça près de lui dans une grappe d'acacia jaune. Mais le jeune homme n'avait guère souci des séductions d'une matinée de printemps. Dans la feuillée lointaine, le coucou venait de répéter 18 fois son appel mélancolique. La superstition veut que le nombre des appels du coucou, quand on l'interroge, soit le même que celui des années destinées à l'être auquel on a songé. Dosia ne quittait pas les pensées du jeune officier, et bien qu'il ne fût pas superstitieux, il sentit son cœur se serrer d'une nouvelle angoisse. Devait-elle mourir à 18 ans? Peut-être en ce moment même Dosia se débattait-elle sous l'étreinte de la maladie. Peut-être la mort qu'elle avait appelée la veille planait-elle à son chevet. Et s'il n'aimait pas la vie trop difficile, comme elle l'avait dit, Platon n'en était-il pas la cause? N'était-ce pas lui dont le rigorisme outré, la pédante sagesse avait attristé ce jeune cœur, jadis débordant de joie et de vie? Qu'avait-il besoin d'exiger d'elle une perfection irréalisable? « Si elle meurt, se dit-il, que ferai-je? Que sera ma vie? Quel remords et quel regret !» Ses pas l'avaient conduit au petit pavillon moisi. Il s'assit sur le banc et regarda la charmille où la veille Dosia lui était apparue. « Comment, se dit-il, n'ai-je pas compris alors qu'elle ne tenait pas à la vie? Comment, dans ce regard navré, n'ai-je pas lu la fatigue de la lutte incessante ?» Il resta longtemps à cette place. La rivière brillait non loin d'un bleu froid. Il sentit passer sur lui le frisson de l'onde glacée tel qu'il avait dû passer la veille sur Dosia pendant qu'elle entrait si courageusement dans l'eau. Il s'accabla de reproches tout en continuant à marcher au hasard pendant longtemps. Lassé enfin, il rentra, se jeta sur son lit et s'endormit. Il se réveilla à 8 heures. Un bruit de ruche remplissait la maison sonore, entièrement construite en bois de sapin. Il se hâta de descendre dans la salle à manger où Madame Zaptine préparait le café elle-même en l'honneur de ses hôtes. « Eh bien, madame, » dit-il, prenant à peine le temps de leur souhaiter le bonjour, « comment va Mademoiselle Théodosie ?»« Mademoiselle Théodosie est là, » répondit la voix légèrement enrouée de la jeune fille. « Je me chauffe au soleil sur le balcon, monsieur Platon. » En 3 enjambées, il franchit la distance qui le séparait de la porte et se trouva en présence de Dosia. Vêtue de laine blanche, elle s'était pelotonnée dans un grand fauteuil. Une ombrelle doublée de rose protégeait sa jolie tête un peu pâle contre les rayons du soleil déjà brûlant. « Vous ne ressentez aucun mal ?» dit Platon d'une voix aussi rauque que s'il avait subi l'immersion de la veille. Il n'osait avancer la main vers celle de la jeune fille. « Je n'ai rien du tout. J'ai dormi comme un loir. Il n'est rien de tel qu'un bain froid pour faire dormir. » Mais à cette époque de l'année, dans 15 jours, tout le monde se baignera par partie de plaisir. J'ai un peu devancé l'usage, voilà tout. Il n'y a pas là de quoi fouetter le plus petit chat. » Elle se tut et baissa les yeux. Il la regardait comme on regarde un trésor perdu et retrouvé soudain. « Avez-vous pris votre café ? » dit-elle pour rompre le silence qui se prolongeait. « Non. » « Faites-vous apporter votre tasse ici, nous déjeunerons ensemble. » Platon obéit. L'instant d'après, un petit domestique apportait un guéridon avec le plateau du déjeuner. La cordialité vient en mangeant. Si cette vérité n'est pas proverbe, elle mérite de le devenir. Mieux que tout le reste, le pain et le sel de l'hospitalité établissent promptement la communauté des impressions. Aussi Dosia se mit-elle bientôt à jaser comme autrefois. De temps en temps une ombre passait devant ses yeux, mais elle la chassait d'un geste enfantin, comme on écarte le sommeil en se frottant les paupières. Quand les tasses furent vides, Dosia émietta sur le balcon le pain qui lui était resté, et les oiseaux arrivèrent de toutes parts pour profiter de cette aubaine. « Ils me connaissent, » dit Dosia, en se laissant retomber dans son fauteuil d'un air heureux et fatigué. « Ils m'aiment bien. » Elle ferma les yeux sur cette parole. Ses cils noirs portaient une ombre foncée sur ses joues pâles, déjà précédemment amaigries. Platon éprouva un vague sentiment d'effroi. Le petit domestique vint chercher le plateau. Mouriev puis Sophie s'approchèrent tour à tour de Dosia pour prendre de ses nouvelles. Sophie alla rejoindre la famille dans la salle à manger et ferma doucement la porte du balcon. Platon était seul avec la jeune fille. « Dosia, » dit-il après un moment d'hésitation. Elle ouvrit les yeux qu'elle avait refermés et un flot de sang lui monta au visage. « Dosia, » reprit le jeune homme, « j'ai été très dur avec vous. Je vous prie de me le pardonner. » Elle étendit sa main comme pour l'empêcher de parler. Il prit cette main glacée et la garda dans la sienne. « J'avais dans l'esprit, » continua-t-il, « un idéal de perfection chimérique. Je voulais vous obliger à lui devenir semblable. J'ai eu tort. Toute créature a ses instincts, ses sentiments, ses impressions qui lui sont propres et qui lui font une originalité. Vous ne pouviez pas être pareil à Sophie ?» interrompit Dosia avec un soupir. « Oh non !» Elle retira sa main que Platon essayait timidement de retenir, poussa un second soupir et détourna les yeux. « Telle que vous êtes, Dosia, » reprit Platon, « vous êtes bonne et charmante. Vous méritez l'estime et l'affection de tous, et vous l'avez. » Un regard interrogateur, habitude de malice ou de coquetterie, glissa entre les paupières de la jeune fille, puis retomba. Elle rougit. « Je tiens plus à l'estime de quelques-uns, » dit-elle, « qu'à l'estime de tous. » « L'un n'empêche pas l'autre, » dit Platon. « Vous m'avez inspiré un sentiment profond. » que j'ignorais avant vous et qui changera ma vie. » Il s'interrompit, ému. Ses yeux, fixés sur le visage de la jeune fille, en avaient dit plus long que ses paroles. Elle se souleva brusquement dans son fauteuil et s'assit toute droite. « J'ai honte, » dit-elle d'une voix basse mais ferme. « J'ai grande honte, monsieur Platon, d'avoir volé une estime que je ne mérite pas. Vous m'aimez pour ma sincérité, pour ma franchise, car d'autres qualités je n'en vois guère. Eh bien, cela aussi est de ma part hypocrisie et mensonge. J'aurais dû vous le dire il y a longtemps, mais vous étiez parfois sévère. Je me disais, à quoi bon parler de toi, quelqu'un pour qui tu n'es rien? J'avais tort, je le vois aujourd'hui. » Platon l'écoutait, indécis. Une lueur de joie indicible filtrait dans son âme, mais il n'osait y croire. « Vous venez, » reprit-elle, « de parler de sentiments qui changeront votre vie. » Avant qu'il soit trop tard, avant que ces sentiments fassent votre chagrin comme ils ont fait. » Elle se mordit la lèvre, pâlit, puis reprit. « Je dois vous dire que je ne suis pas ce que vous croyez. L'an dernier, à Paris époque, las de la contrainte dans laquelle j'étais tenu ici, j'ai fait une folie qui me coûtera le bonheur de ma vie. Dans un moment d'exaspération, j'ai prié mon cousin Pierre de m'enlever. Il ne m'aimait pas. Je crois bien que je le savais. Même alors. Mais j'avais menacé. Peu importe le moyen que j'employais. D'ailleurs, j'étais résolu à tout. Il consentit et m'emmena. Mais nous n'avions pas fait 4 verstes que j'avais compris ma faute. Personne n'en avait connaissance, je la regrettais. Mon cousin voulut bien me ramener ici sans me faire les reproches que j'avais mérités. Après cela, monsieur, après une faute qui n'a fait tort qu'à moi, puisque Pierre est innocent, je ne suis plus digne de votre estime. Pardonnez-moi de l'avoir usurpée si longtemps. » Elle se tut. Deux grosses larmes roulèrent silencieusement sur la laine blanche de son peignoir. Elle voulut se contraindre, mais elle n'en eut pas la force. Ses sanglots éclatèrent douloureux, brisés comme ceux d'une créature désespérée pour qui la vie n'a plus de ressources, et elle cacha son visage contre le dossier du fauteuil. « Dosia, » dit la voix de Platon, si près qu'elle tressaillit. « Dosia, vous êtes un ange, je le savais. » Elle frémit de la tête aux pieds. « Vous le saviez ? Et vous m'aimiez un peu tout de même ? Non, je ne vous aimais pas assez du moins. pas comme je vous aime à présent. Je me demandais si vous auriez assez de confiance en moi pour parler. J'ai voulu le faire 100 fois, mais vous étiez si sévère. Vous aviez si peu l'air de vous intéresser à moi. J'avais si grand peur de vous. Et maintenant ?
Maintenant, fit Dosia en souriant. Ce sourire dans ses yeux mouillés lui donnait une grâce idéale.
J'ai encore un peu peur de vous, mais pas tant.
Est-ce que vous m'estimez vraiment ?
Ah, j'ai bien souffert de cette estime que je croyais voler.
Oui, je vous estime quelque peu, répondit Platon en souriant aussi.
Vous êtes comme Bayard, vous avez sauvé votre semblable.
Oh, quelle bêtise !
S'écria Dosia.
Je n'en ai pas fait autant.
Mais comme je suis plus sage que vous, cela rétablit un peu la parité.
Vous rappelez-vous ce jour où nous sommes tombés d'accord qu'il vous faudrait un mari très sage ?
J'ai bien pleuré ce jour-là, murmura Dosia.
Vous ne pleurerez plus.
Me trouvez-vous assez sage pour être votre mari ?
Dosia le regarda, lui tendit les bras. Puis par un mouvement de pudeur virginale, les replia sur sa poitrine et s'affaissa dans le fond du fauteuil, toute pâle, mais sans le quitter des yeux. Il l'enleva et l'entraîna, la porta presque, jusque dans la maison. Madame Zaptine eut alors une belle occasion de lever les bras au ciel à cette apparition incongrue, mais elle la manqua. Sophie la prévint d'un mot.
« Je crois, chère madame, dit-elle tranquillement,
que mon frère a quelque chose à vous communiquer.
« Madame, dit Platon, veuillez m'accorder la main de mademoiselle Théodosie. »
Nous renonçons à peindre le tumulte qui s'ensuivit. Homère seul ne serait pas inférieur à cette tâche.
Dosia, ressuscitée d'un coup de baguette, monta mettre une robe et, au bout d'un quart d'heure, réapparut, coiffée, habillée, digne en un mot de sa nouvelle position de fiancée. On dansa, on joua à Colin-Maillard. Le vieil orgue de Barbarie qui jouait le calife de Bagdad et Aline, reine de Golconde, fut si bien mis à contribution que la manivelle en resta dans la main trop zélée de Mourieff. Enfin, on fit tant de bruit et l'on s'amusa si bien que jusqu'à l'heure du repos, les sœurs de Dosia n'eurent pas le temps de méditer sur la grande injustice que la destinée leur avait faite ce jour-là.
« Nous nous marierons dans 8 jours, dit Platon, comme on servait la soupe.
« Comment, comment ? Cria Madame Zaptine.
« Et le trousseau ?
Ce n'est pas le trousseau que j'épouse, nous aurons le trousseau plus tard.
Mais nous nous marierons dans 8 jours, en même temps que Sophie, n'est-ce pas, Dosia ?»«
Certainement, fit celle-ci, j'emmène Bayard. »«
Quel bonheur ! S'écrièrent les sœurs toutes d'une voix.
« Ne vous réjouissez pas trop, fit Dosia en levant l'index d'un air menaçant.
« Sans quoi je vous laisserai mon chien ?»
On demanda grâce, et il fut convenu que Dosia emmènerait aussi son chien. En sortant de table, toute la société descendit l'escalier casse-cou, et Madame Zaptine, fidèle à une habitude de sa jeunesse, alla s'asseoir sur la balançoire flexible. Depuis 38 ans, elle venait y faire un peu d'exercice après le dîner pour activer sa digestion. Elle n'était pas assise depuis une demi-minute, que deux de ses filles vinrent les rejoindre, puis Dosia, suivie de Platon qui riait, enfin toute la compagnie, à l'exception de Mourieff, qui, debout à 10 pas, les regardait en fumant sa cigarette.
Vous avez l'air d'un vol d'hirondelle perché sur un fil télégraphique, dit-il en se délectant à cette vue,
ma tante surtout, par sa diaphanéité.
Madame Zaptine rit de bon cœur. Elle était si contente ce jour-là qu'elle avait oublié d'être malade.
La balançoire se mit en branle. Mourieff les regardait sauter d'un air amusé.
« Dis donc, Dosia, s'écria-t-il, te souviens-tu, l'an dernier ?»
Il s'arrêta, vexé, craignant d'avoir fait une sottise.
« Oui, je m'en souviens, répondit Dosia en regardant Platon. « Tu n'étais pas aussi aimable qu'aujourd'hui. Allons, viens aussi faire un tour de balançoire. »
Pierre jeta sa cigarette, vint s'asseoir près de Sophie et donna une vigoureuse impulsion à la planche lourdement chargée. Au milieu des rires, chacun prit le mouvement.
« Vous allez casser la balançoire !»
criait Madame Zaptine en faisant de vains efforts pour s'arrêter.
« Ça ne fait rien, ma tante !» répondit Mourieff. « Allons, hop, hop, en famille !»
Ainsi s'achève Dosia de Madame Henri Gréville.